Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'After Live, la musique, la Ligue des Champions. Deuxième soirée après le feu d'artifice footballistique d'hier au Parc des Princes. Place à Atlético de Madrid, Arsenal. La deuxième demi-finale aller de Ligue des Champions. Kevin Diaz est dans l'avant-match. Salut Kevin.
Salut à tous.
Manu Petit nous rejoindra pour le match, bien sûr. L'After dans la foulée jusqu'à minuit. Merci d'être avec nous, nombreux sur RMC en direct. Bon Kevin, à peine le temps de se remettre un peu des émotions folles d'hier soir. Ça va être difficile de prendre la claque qu'on a prise hier soir, hein,
ouais.
Avec ce PSG FC Bayern.
Non mais c'était franchement un match extraordinaire. Moi je l'ai dit dès hier, hein, c'est sûrement le meilleur match que j'ai vu depuis les 10-15 dernières années en termes de. Et moi je parle pas que des buts, du nombre de buts, du score.
Non, la qualité technique,
on en parlait là avec Jérôme après son émission. Quand je vois quand même deux telles équipes avec quand même des défenses qui sont pas les pires d'Europe, au contraire, qui sont parmi les meilleurs, avec 85% de passes réussies, au vu de l'intensité, au vu du pressing de chaque équipe. Bon, franchement, c'était un match, ça restait, comme je l'ai dit hier, un très très beau tableau de maître pour ce maintenant, ça n'est qu'un match aller, je l'entends.
Alors justement,
mais bon,
on va en parler dans l'avant-match. Bien sûr, cette question-là, selon vous, après le rapport de force d'hier, le PSG est-il en ballotage favorable avant la demi-retour mercredi prochain à Munich, à l'Allianz Arena, avec une information importante dont on parlera dans quelques minutes, le forfait officiel acté d'Achraf Hakimi, on n'est pas surpris, déchirure musculaire, forfait pour les 2 à 3 prochaines semaines. On va voir à quel point ça peut modifier également ce rapport de force. Qui pour le remplacer? 32-16 ouvert, supporters parisiens, venez en parler, en débattre avec nous dans l'After Live avec Kevin Diaz. Atlético de Madrid ou Arsenal, ce soir pour prendre un avantage, les deux coups après une première victoire dans leur histoire en Ligue des Champions, au Metropolitano, notre drôle de dame espagnole, Edgar Grollo. Salut Edgar.
Salut Nico, salut Kevin, Edgar. Bienvenue au Metropolitano.
Merci d'être avec nous. Météo, ambiance, on attend quoi ce soir? Le feu, mobilisation générale?
Oui, alors je suis arrivé à peu près en même temps que le bus de l'Atlético. Il y avait des fumigènes de partout, des milliers et des milliers de supporters qui ont accompagné le bus sur l'avenue Luis Aragonés, nommé après le plus grand joueur de tous les temps de l'Atlético de Madrid. On attend une sacrée ambiance. Alors pour l'instant, il fait très très beau. Ça fait des jours qu'on nous annonce l'orage, l'averse, tout ce que vous voulez pendant le match. On verra si finalement ça tient.
On verra si ça tient. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, avant d'accueillir Julien Laurence d'ici une dizaine de minutes, pour parler des Gunners, hein, qui sont un peu sur une pente glissante en ce moment. La compo, les compos, Edgar, on commence par celle des Colchoneros.
Ouais, avec le retour de Jan Oblak dans les cages, la défense, Ruggeri à gauche, Llorente à droite et les deux centraux, Anko et Poubil au milieu de terrain, Coquet, et là c'est le choix fort de Diego Simeone qui a décidé de titulariser Johnny Cardoso, et puis les quatre attaquants, Ademola Lookman, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann et Julian Alvarez côté Atlético.
Et côté Arsenal, Edgar?
Côté Arsenal, David Raya dans les cages, la défense, Incapié, Gabriel, Saliba, Ben White, le milieu de terrain, Declan Rice, Martin Zubimendi et Martin Odegaard, le capitaine, et puis devant, Martinelli, Gyökeres, Madueke. Ça c'est pour le côté Arsenal, dirigé évidemment par Mikel Arteta, l'Espagnol.
Voilà pour la compo débris dans un instant, hein. La compo de Mikel Arteta, des Gunners, avec Julien Laurence. Commençons par l'Atlético de Madrid. Griezmann évidemment est là, mon cher Edgar, évidemment.
Oui.
Le bout de la piste, ce n'est pas loin. Sera-t-elle enfin étoilée, hein, lui qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions ni la Liga en 10 ans à Madrid. Une Ligue Europa, c'est déjà pas mal, mais pas suffisant, diront certains. Edgar, c'est une soirée très importante pour lui, qui ne sera plus là dans un mois, hein. Et l'autre légende, Coquet, tiens, on va l'écouter. L'homme d'un club, hein, l'homme qui a fait toute sa carrière à l'Atlético, tiens, on offrirait une à son ami, écoutez.
Je pense que si on peut se dire au revoir avec la Ligue des Champions, ce serait incroyable pour tout le monde. Et nous avons tous la même motivation. Au-delà de dire au revoir à Antoine, nous avons tous la motivation de gagner la Ligue des Champions. C'est le maximum que nous pouvons faire. Au-delà du fait que l'année prochaine, Antoine ne soit plus là, ou n'importe quel autre joueur, je pense qu'au final, c'est une équipe. Et nous jouons pour essayer de faire le maximum, et le maximum, c'est la Ligue des Champions.
C'est un enjeu pour les Colchoneros également, le cas individuel d'Antoine Griezmann, où ça dépasse tout ça.
Oui, alors c'est un enjeu. Je pense que ça leur donne un petit supplément d'âme, en tout cas pour les supporters. Quand on discute avec eux, ils nous disent tous, oui, gagner la Ligue des Champions, c'est évidemment le rêve absolu. Mais la gagner en plus de ça, avec Antoine Griezmann, ce serait le scénario le plus parfait possible. Ils en ont la chair de poule rien qu'à penser à ce scénario-là. Je pense que pour tous les joueurs, évidemment, c'est avant tout un objectif collectif, mais tout le monde a conscience qu'Antoine Griezmann est là, qu'Antoine Griezmann est l'une des plus grandes légendes du club, et que peut-être que quand il manquera un petit détail, un petit geste magique, ce sera lui qui viendra l'amener. Il va se rapprocher des 500 matchs avec l'Atlético, ça va être son 495e ce soir.
Il sera pas 500 quoi qu'il arrive.
Ouais, ça va être faut compter, ça va être limite, mais en tout cas la fin de son histoire peut être incroyable ou peut être quand même assez décevante, puisque en fait côté Atlético on s'est mis à rêver, on s'est mis à penser à cette Coupe du Roi, on s'est dit ça va être la première Coupe du Roi d'Antoine Griezmann, ratée avec cette défaite en finale face à la Real Sociedad au tir au but. Et puis là on se dit ça peut être enfin la première Ligue des Champions d'Antoine Griezmann après cette fameuse finale de 2016 où il avait raté un pénalty, au Real Madrid. On se dit que c'est le moment de se racheter, mais en tout cas d'effacer entièrement ce souvenir là mais évidemment c'est pas juste Griezmann qui va le faire, parce qu'il a quand même 35 ans et parce qu'aujourd'hui c'est plus lui le leader offensif de cette équipe, même s'il reste très très important.
On a envie tous un peu, Kevin, quand même.
Ouais.
Ce serait, on aimerait que le PSG le fasse aussi pour un back-to-back, mais l'immense consolation serait de voir Griezmann avec la coupe.
Oui, non, mais c'est clair. Enfin, pour moi, Antoine Griezmann, s'il pouvait gagner la Ligue des Champions, lui qui n'a pas gagné de titre espagnol, même s'il a déjà quand même gagné une Europa League, c'est quand même magnifique. Mais c'est vrai que ce serait un bel adieu. Maintenant, je pense quand même que ce soir, ça va être très très compliqué, et que même s'il se qualifie, je pense que ça va être très très compliqué, surtout en finale. Donc
c'est l'outsider des quatre, ça c'est sûr.
Oui, c'est sûr. Après, attention.
Donc ça, c'est un débat qu'on va mener.
Oui, c'est l'outsider pour moi.
Par rapport à Arsenal.
Déjà pour moi.
Malgré la forme d'Arsenal actuellement.
J'ai vu les deux matchs et de très très près entre le Barça et l'Atlético. Pour moi, le Barça, ils doivent tous les jours passer. S'il n'y a pas les cartons rouges, ils passent. Donc après, ça reste des faits de jeu, mais l'Atlético, on le voit en championnat, est quand même bien en dessous du Barça footballistiquement. Je suis désolé de le dire. On est dans un sport où ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne, mais pour moi, sur la ligne de départ des demi-finales, l'Atlético est même bien en dessous des trois autres.
Mais j'ai envie de vous dire, messieurs, ça les arrange parce que c'est le scénario qui leur plaît le plus, être l'outsider, être l'équipe qui va aller chasser les géants, parce que n'oublions pas que dans l'imaginaire collectif des supporters de l'Atlético, ça reste, malgré son budget immense, un club populaire au niveau des supporters, qui a passé toute sa vie à combattre le Real Madrid et le FC Barcelone, et en Europe à combattre les grands. Et donc eux, ils préfèrent être dans cette situation-là, de se dire ok, on est outsider, parce que généralement quand ils sont favoris ça va pas toujours dans leur sens, et on l'a encore vu face à la Real Sociedad où ils étaient favoris et finalement ils ont pas réussi à maîtriser le match comme ils l'auraient voulu.
Après attention, je dis pas non plus que c'est Bodo Glimt, l'Atlético Madrid, ils ont quand même énormément de qualité individuelle. Je sais pas quel est leur budget, mais ils ont un énorme budget, ils ont l'entraîneur le mieux payé du monde, ils ont quand même de l'oseille,
c'est l'un des clubs les plus dépensiers sur les dernières années,
ils ont un stade extraordinaire, ça reste quand même une grosse écurie, mais je pense que footballistiquement, et on le voit en championnat, c'est en dessous des restes.
C'est limite une anormalité qu'il n'y ait pas plus de finale ou même de Liga à l'Atlético, même si voilà, ils sont loin derrière les budgets du Real et du Barça.
Ils sont devant deux monstres.
On peut le voir dans les deux sens. On peut aussi le voir dans le sens où Diego Simeone est arrivé en 2011. Avant 2011, l'Atlético avait joué 8 Ligues des Champions dans son histoire et il en a joué 13 avec Simeone. Donc largement plus de Ligue des Champions avec Simeone que sans Simeone, alors qu'évidemment, l'histoire sans Simeone est beaucoup plus longue. Donc on peut le voir dans les deux sens. Il a amené une régularité, il a amené quelque chose d'incroyable qui fait qu'aujourd'hui on se dit que l'Atlético peut rivaliser avec les grands, mais c'est vrai qu'on attend encore ce pas supplémentaire, et c'est peut-être le nouvel investisseur, le nouveau propriétaire Apollo qui va apporter ça aussi dans les prochaines années.
Benjamin est avec nous, supporter des Gunners au 32-16. Salut Benjamin.
Salut, bonsoir à tous, bonsoir.
Bienvenue dans l'Afterlife avec Kevin Diaz, Edgar Grollo au stade à Madrid, le Metropolitano. Bon, comment t'imagines ce rapport de force et ce soir, même une question sur le spectacle attendu.
Moi, je m'attends à un match terrible, franchement terrible. Arsenal, depuis le début de saison, c'est ça joue à la baballe, mais c'est pas un jeu qui est tourné vers l'avant. Donc, je m'attends à un match très fermé. Je pense que le réveil va être un peu difficile après le match qu'on a vécu hier soir, passer à deux équipes qui vont tout faire, je pense, pour ne pas prendre de but. Arsenal, attention, ça ne prend pas beaucoup de buts et c'est très efficace devant. Donc il se procure pas tant d'occasions que ça, mais il marque quand même souvent. Donc moi je m'attends vraiment à un match, voilà, 1-0, un partout, pour que les deux équipes soient encore en vie pour le match la semaine prochaine, quoi.
Alors c'est intéressant ce que tu dis, hein. Arsenal est devenu une sorte d'Atlético de Madrid d'il y a quelques années, Edgar. En revanche, il faut peut-être commencer à défoncer le cliché du cholismo.
Oui.
Il y a qui est l'équipe la plus efficace en Ligue des Champions devant le but après le PSG et le Bayern?
Celle qui a mis le plus de buts, oui. C'est l'Atlético. 34 buts en 14 matchs. Alors oui, ils ont joué plus de matchs que beaucoup d'autres équipes, mais ça fait quand même 2,4 buts par match en moyenne. Si avec 2,4 buts en moyenne par match, tu dis que c'est une équipe qui fait juste garer le bus et qui fait rien d'autre, non, c'est pas possible. Faut arrêter avec ce cliché-là. Alors évidemment, la base du jeu Diego Simeone et surtout de la réflexion de Diego Simeone, c'est-à-dire mettre l'intensité, avoir de la Grinta, avoir une équipe entière avec 11 joueurs qui défendent quand ils n'ont pas le ballon, ça reste une réalité. Et on l'a vu face au Barça, c'est une équipe qui, dans certains scénarios, reste une équipe défensive. Mais de manière générale, c'est une équipe qui, de plus en plus, par rapport à il y a 5-10 ans, est une équipe portée vers l'avant. Et les stats le disent, les stats défensives aussi, puisque finalement, c'est pas la défense la plus imperméable d'Europe. Loin de là, 1,8 buts pris par match en moyenne cette saison en Ligue des Champions. Si tu prends toutes les équipes qui étaient qualifié au moins pour les quarts de finale, c'est tout simplement le pire ratio parmi toutes ces équipes-là, parmi toutes les meilleures équipes d'Europe. Donc c'est une équipe qui marque beaucoup et qui prend beaucoup de buts.
Bon, c'est étonnant, hein, quand on dit ça aujourd'hui. Hein. Terminer l'époque des combats agressifs, intenses des Colchoneros pour gagner 1-0 à la fin, quoi.
Ou arracher un match nul. Je suis désolé, je reviens sur le quart de finale face au Barça. Ils ont quand même beaucoup défendu.
Oui, bien sûr. Ouais, est-ce que c'est le Barça aussi?
Voilà. Ouais, d'accord. Ce soir, ce sera Arsenal et je pense qu'ils vont beaucoup défendre aussi.
L'équipe en face, c'est pas le même style de jeu, Kevin. Donc c'est aussi une adaptation par rapport à l'adversaire. Et je pense aussi que je suis d'accord avec toi. Tu peux refaire la double confrontation 10 fois. Je pense qu'il y a plus de fois où le Barça serait passé que l'Atlético. Et je pense que l'Atlético, sur certains moments et particulièrement sur le match aller, a été tout simplement dépassé techniquement, tactiquement par le Barça. Et c'est pour ça que Diego Simeone, lui, pour le coup, il est pragmatique. Il a pas de honte. Et contrairement à d'autres entraîneurs, s'il sent que son équipe va pas pouvoir faire le jeu, va pas pouvoir se développer offensivement comme ils peuvent, il met tout le monde derrière. Ça reste une réalité.
Non, mais ça, je suis d'accord. Mais après, attention, je veux bien qu'Arsenal, ce soit pas le Barça. Mais Arsenal, c'est pas l'Atlético non plus. Hein. Ça reste une équipe qui est capable de jouer, qui est capable de se procurer des occasions. Là, ils sont un peu moins en confiance en championnat, mais ils sont quand même premiers en première ligue. Ils ont fini, je crois que c'était premier ou deuxième de la phase de groupe de Ligue
premier,
des Champions.
Premier
de la phase de groupe de Ligue des Champions. Ouais. Attention, c'est pas un bloc bas qui attend et qui fait que des touches. Hein. C'est pas Stock City, hein, l'histoire. Donc, c'est quand même une équipe qui a énormément de qualités individuelles, qui va retrouver un Odegaard, qui va jouer avec un Zubimendi, avec un Martinelli, avec un Madueke. Il y a quand même des joueurs de foot dans cette équipe.
Hein. Il y a toujours Sam Bukayo Saka, Benjamin. Certains imaginaient qu'il débuterait ce soir. Il a joué 10 minutes ce week-end. Pas épargné par les blessures cette saison. À quel point il manque, à quel point il peut manquer ce soir? Est-ce que tu es surpris? Et est-ce que tu aurais aimé le voir ce soir titulaire, toi?
Surpris qu'il soit pas là, pas du tout, parce qu'en fait, il n'a aucun rythme. Il n'était pas là depuis plusieurs semaines et il est revenu à peine contre Newcastle. Il a joué que quelques minutes. Donc non, il vaut mieux avoir un joueur qui a du rythme. Mais est-ce qu'il vaut pas mieux avoir un Saka hors de forme qu'un Madueke au top de sa forme? Ça, je sais pas trop. Parce que Madueke est vraiment pas un joueur talentueux, en tout cas depuis qu'il est arrivé à Arsenal. Donc oui.
Si tu me permets, c'est un joueur talentueux qui n'est pas régulier.
Oui, c'est plutôt ça. Ouais. C'est plutôt ça. Mais c'est compliqué de se passer de Saka dans la mesure où c'est le meilleur joueur de l'effectif, c'est le joueur le mieux payé. C'est vraiment la star de l'équipe qui cette saison quand même est sur des stats qui sont pas folles. Donc difficile d'imaginer la Ligue des Champions, enfin une victoire en Ligue des Champions sans un Saka qui revient en forme.
Tiens, justement, on va accueillir Julien Laurence qui nous écoute depuis quelques secondes. Salut Jules.
Salut Nico, salut à tous.
Merci d'être avec nous, Julien, dans les dames anglaises. Tiens, on parlait de Bukayo Saka, je le cueille comme ça directement sur le cas de l'international anglais. Certains imaginaient qu'il débuterait ce soir. Finalement, c'est Madueke. Est-ce que toi, t'es surpris? Est-ce que tu comprends ce choix? Je rappelle qu'il a plus débuté un match depuis le 22 mars dernier, notamment. C'est en finale de la League Cup, Julien.
Ouais, non, je pense qu'il aurait pu débuter ce soir. Le problème, si ça avait été le match retour, par exemple, et qu'il n'y avait plus rien à jouer en championnat, exactement. Là, tu peux pas prendre le risque. Même dans un match aussi important que celui de ce soir, il y a Fulham samedi en championnat dans cette course au titre acharnée avec City. C'est très compliqué. Si tu venais à perdre Saka, l'idéal c'est qu'il joue un petit peu encore ce soir et je pense qu'il va jouer. On le verra sûrement une demi-heure, peu importe le score au moment où il entre en jeu finalement. qu'après il soit titulaire contre Fulham, il soit titulaire lors du match retour le mardi prochain à l'Emirates, et qu'après il puisse jouer tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. C'est ça l'idée. Alors que là, je pense vraiment qu'il aurait pu débuter dans d'autres circonstances et un autre contexte. Mais là, tu prends pas de risque. Pareil avec Eze. Je pense qu'Eze aussi aurait pu être titulaire ce soir. Ils ont choisi de pas prendre de risque pour les mêmes raisons que pour Bukayo Saka. Alors, c'est un petit peu différent pour Eze, même si lui aussi revient un petit peu de blessure. Mais il a sûrement plus de rythme sur les 5 dernières semaines que Saka. Mais c'est un petit peu la même logique, quoi.
Julien, on se souvient bien sûr, parce que c'est frais, hein, cette double confrontation contre le Sporting Portugal, la frilosité, l'extrême prudence de l'équipe de Mikel Arteta. Est-ce qu'il faut s'attendre à la même approche ce soir face à une équipe encore à un niveau supérieur qui met encore une intensité plus importante, l'Atlético de Madrid? Qu'est-ce que t'en penses toi ce soir, Julien?
Moi, je pense que Arsenal, comme on l'a vu par exemple contre l'Atlético déjà lors de la phase de Ligue, est capable aussi de marquer 4 buts à une équipe pareille. Après, cette histoire de contraste entre la demi d'hier et la demi de ce soir,
c'est pas la bonne comparaison possible.
Je sais pas si Edgar en a parlé encore, mais l'Atlético, ils viennent de marquer 50 buts sur les 10 derniers matchs ou un truc comme ça, c'est ridicule. Donc eux aussi, ils sont capables d'attaquer et de marquer des buts. On aura peut-être pas le spectacle qu'on a eu hier, mais on pourra aussi avoir un match.
C'est ce qu'on disait, exactement.
Tout à fait. Donc avec des équipes, mais c'est, si tu me demandes si Arteta aime le contrôle, bien sûr qu'il aime le contrôle, ça c'est sûr. S'il préfère avoir le contrôle plutôt que de prendre des risques pas mérités entre guillemets, oui, il va choisir le contrôle. Il va choisir par exemple de repartir même sur une option d'aller en contre par exemple ou en transition rapide. Il va peut-être préférer qu'on mette le pied sur le ballon, qu'on recommence, qu'on reparte de derrière, qu'on reconstruise, qu'on s'installe dans la moitié adverse, qu'on fasse ce qu'ils font habituellement. Ça c'est sûr. Après, ça l'empêche pas de marquer 2, 3, 4 buts s'ils peuvent dans une rencontre. Ça fait longtemps qu'ils l'ont pas fait. Ça c'est sûr. Mais ils en sont capables aussi. Après, le jeu et la rencontre, la physionomie de la rencontre dictera aussi ce que lui fera, notamment dans ses remplacements et tout ça. Mais oui, s'il aime le contrôle, il y a aucun doute là-dessus. S'il a construit une équipe qui est avant tout la meilleure sans ballon, ça c'est sûr aussi, c'est l'équipe qui est la plus forte défensivement, avec ballon, sans ballon. Ils ont cette capacité notamment à la perte du ballon, à très rapidement se replacer derrière le ballon. Ça c'est sûr, il en a fait une machine défensive à ce niveau-là, il y a aucun doute là-dessus. Mais c'est aussi une équipe qui peut être forte offensivement avec le ballon.
Exactement. Kevin, vas-y.
Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je pense quand même que cette équipe d'Arsenal, elle a énormément de qualité et qu'elle peut, malgré qu'elle soit bien sûr en stress avec ce qui leur arrive en championnat, elle n'est pas complètement libérée. Mais c'est une équipe, quand tu regardes, de toute façon, c'est toujours pareil. Moi, je discutais avec un président cette semaine qui me disait, moi, quand je regarde les adversaires, j'aime bien regarder le banc de touche. Mais tu rends compte le banc de touche qu'ils ont, Arsenal.
Bien sûr.
C'est extraordinaire ce qu'ils peuvent faire rentrer avec les 5 changements. T'as du Bukayo Saka, t'as du Lewis Kelly, t'as du Gabriel Jesus, t'as du Eze qui a la furie en défense. Enfin bref, même le gardien, c'est fort. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui peut clairement faire très très mal si elle est menée. Et tu sais, moi je pense qu'ils peuvent gagner la Ligue des Champions, Arsenal. Hein. Ils peuvent le faire. Je sais pas s'ils vont le faire. Ils sont peut-être pas favoris numéro 1, mais pour moi, j'oublie
pas.
Tu
veux dire, dans leur approche, dans leur style, peut-être pour
tout
la seule équipe qui peut contrecarrer le Bayern ou le PSG dans une éventuelle finale.
Non, bah, l'Atlético, ils les contrarieront dans un autre domaine. Ils peuvent aussi le faire. Ils l'ont fait contre le Barça. Mais Arsenal, c'est très fort individuellement. Attention.
Bon, c'est bien. Hein. C'est un discours qui tranche avec la tonalité de certains supporters d'Arsenal, notamment sur les réseaux là, sur Direct Studio notamment, qui sont un peu inquiets. Pente glissante, dit-on, de plus en plus à Arsenal. Mon cher Julien, est-ce que c'est perceptible encore aujourd'hui? Là, ils ont repris la tête avec un match en plus que City n'a pas joué, notamment 3 points d'avance. Est-ce que toi, tu sens que Arteta a une approche des matchs un peu différente, un peu plus frileuse? Tu parles de contrôle, toi, mais est-ce qu'il n'y a pas une prudence liée peut-être à une confiance qui s'est un peu érodée ces dernières semaines?
Si, je pense qu'il y a sûrement un petit peu de ça, oui. C'est vrai que si tu compares par exemple au football produit, encore une fois, dans la phase de Ligue, qu'ils avaient remporté et assez haut la main finalement, en étant invaincu même, oui, c'est sûr qu'il y a... Il y a des joueurs individuellement qui sont plus au même niveau, des joueurs qui sont plus là du tout, comme l'absence de Saka par exemple, ou celle de Timber qui fait très très mal, celle de Timber, peut-être même plus que celle de Bukayo Saka dans un sens.
Odegaard qui n'a pas retrouvé non plus sa forme évidemment.
Ouais, par exemple, c'est des joueurs qui ont joué beaucoup. Alors les Anglais ont fait beaucoup sur le match d'hier, mais ça c'est normal un peu. Hein. Ils essaient de se protéger, de défendre leur première ligue, etc., etc. Mais beaucoup des journalistes anglais de foot depuis hier soir par exemple rappellent à tout le monde qui veut l'entendre en tout cas que si tu regardes les des joueurs du PSG ou du Bayern et les minutes jouées en championnat par exemple par rapport à celles d'Arsenal ou de City, d'Arsenal surtout, c'est le jour et la nuit. Mais c'est vrai que Luis Enrique peut plus faire des changements,
ouais, c'est ça, ouais.
En championnat, quand ils jouent Lorient, Angers, Nantes, tout ça, que Arsenal, surtout dans la course au titre actuelle, alors même si le PSG a eu une course au titre, a une course au titre avec Lens. Et le Bayern, c'est la même chose aussi. Donc oui, ils peuvent faire plus tourner qu'Arteta ou que Guardiola, ou même que Slot. Oui, 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 c'est sûr.
L'Atlético qui fait jouer des gamins en championnat depuis un mois et demi.
Exactement. Donc je pense qu'à un moment, ce soir, peut-être pas ce soir physiquement, mais ou en tout cas dans la dernière demi-heure peut-être, mais la semaine prochaine, c'est sûr que Simeone, là, ce week-end, avec l'Atlético, je crois, à Valence, Edgar, il va faire jouer l'équipe B, tous les jeunes qu'on voit... Depuis un mois, alors que Arsenal, ce sera la même équipe quasiment, avec Eze Saka à la place de Martinelli et peut-être de, je sais pas moi, d'un Ras ou d'un Zubimendi pour les faire se reposer un petit peu. Mais ce sera ça, parce que Fulham, tu dois absolument gagner. Fulham, c'est pas un match que tu peux ne pas gagner parce que c'est ta course au titre. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que Zubimendi, par rapport au mois de novembre, d'octobre, novembre, décembre, Zubimendi, il m'a l'air cramé, le pauvre, à partir de l'heure de jeu, il commence déjà à tirer la langue. Rice, c'est un petit peu pareil. Odegaard, on l'a dit, il cherche son meilleur niveau. Saka est pas là. Madueke, c'est un bon joueur, Madueke. C'est un joueur qui va percuter beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est là. Il est pas là pour marquer des buts et faire des passes. Il est là pour désorienter une défense. Martinelli, il cherche sa meilleure forme aussi. Gyökeres, ça peut être un jour pas mal, un jour moins bon, parce que c'est ce genre de numéro 9 là aussi.
L'absence de Merino aussi, hein, qui est préjudiciable.
Donc et plus Timber. Pour moi, Timber, c'est vraiment celui qui leur a manqué le plus. Donc oui, c'est sûr que c'était pas au niveau que tu avais en novembre, mais tu gagnes pas un championnat ou une Ligue des Champions en novembre non plus. Donc voilà, à eux maintenant d'essayer de retrouver, de se rapprocher le plus près de ce niveau-là qu'ils ont pu montrer.
Après Julien, comme l'a dit Kevin, t'as un groupe élargi, une profondeur de banc dingue que n'a pas le PSG, parce qu'il a voulu peut-être, que n'a pas l'Atlético de Madrid aussi. T'es armé pour jouer le titre sur les deux tableaux. Ouais. C'est ça l'arrêté. J'ai pas non plus envie de pleurer, si tu veux.
J'ai pas envie de pleurer sur les
circonstances, blessures de la saison ou le turnover moins facile à mettre en place pour Arteta. T'es équipé.
Ouais, sauf que Madueke, c'est un bon remplaçant pour Saka, mais c'est pas à classe mondiale comme Saka. Oui, White, c'est peut-être un bon remplacement comme pour Timber, mais Timber, pour moi, au poste d'arrière droit, c'est classe mondiale. Donc après, oui, tu peux me dire, c'est un bon effectif, bien sûr, c'est un effectif qui doit te permettre de battre Fulham, par exemple, avec ton équipe A' ou voire B, une équipe mélangée, c'est sûr, mais t'as des postes où les joueurs que tu as titulaires à leur meilleur niveau, mais de toute façon, c'est la même chose pour le PSG. Hein. Si à un moment, si t'as pas Eze et Saka pour Arsenal, et que t'as pas que Kvaratskhelia est doué pour le PSG, tu trouverais Barcola, oui, c'est bien, mais après à droite, c'est Lee, c'est Mayulu, c'est ça. Donc c'est pareil pour tout le monde.
Je suis d'accord avec toi. Tu sais, souvent, je dis que le grand Barça de Guardiola, s'il lui manquait Xavi et Iniesta au milieu, je pense que ça aurait été une toute autre équipe pendant 3 mois ou pendant 2 mois ou même pendant 2 matchs. Donc je veux dire, il y a un moment, bien sûr que, et on en parlait avec Daniel hier, bien sûr que les individualités sont importantes dans un collectif. Maintenant, ce qui est mis en place par Arteta depuis plusieurs années, c'est quand même énorme, et pour moi, même s'ils n'étaient pas champions, et bah, ils vont finir par l'être, hein. C'est ce que je dis, il y a un moment ça va tourner, c'est obligé, c'est comme ça dans le foot.
Oui, je suis sûr. Mais après, c'est vrai que la pression, je pense, et cette anxiété que eux ont, les joueurs, parce qu'ils veulent absolument gagner, que les supporters ont parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont plus gagné, que le club a, Arteta, les gens au-dessus de lui, bah, parce qu'avec tous les investissements que tu as fait, tu veux gagner forcément, et parce que tu viens de finir 3 fois deuxième en championnat, ça ferait une 4e saison de suite où tu finirais deuxième, tu serais le poulie d'or de la première ligue anglaise. Donc à un moment, oui, c'est sûr que je pense que cette tension, elle est vraiment présente, et ça te gêne sûrement un petit peu par moment sur le terrain. Par exemple, samedi dernier contre Newcastle, tu ouvres le score tôt, et après tu sais pas vraiment quoi faire, tu sais pas si tu dois aller attaquer pour marquer un deuxième, un troisième, au risque de t'exposer un peu défensivement, ou tu reviens un petit peu dans ce que tu sais faire, c'est-à-dire gérer ces matchs-là et gagner 1-0 parce que bah, défensivement, on l'a dit, t'es très fort. Et je pense que ça part de là à la base. Mais oui, il reste potentiellement 3 matchs de Ligue des Champions et 4 matchs de championnat pour essayer de gagner les deux ou l'un ou l'autre. Mais ça peut aussi se faire finir avec rien du tout, effectivement.
Les gars, quel souvenir il en reste de cette confrontation en phase de Ligue? La victoire 4-0 d'Arsenal face à l'Atlético de Madrid. Ça remonte, hein, c'était au mois d'octobre dernier, hein, c'était en quasiment tout début de saison. Edgar, est-ce que c'est un sujet où on se dit, un peu comme à l'instar du PSG Bayern d'hier soir et la défaite du PSG au Parc il y a 6 mois face au Bayern, que le contexte est tellement différent, que les dynamiques sont plus les mêmes, que les effectifs ont évolué également?
Oui, évidemment, ça a beaucoup changé depuis, surtout côté Atlético, des joueurs qui n'étaient pas là. Je pense évidemment à Ademola Lookman. Je pense aussi que cette équipe de l'Atlético là a beaucoup changé, beaucoup évolué. Elle a compris certaines de ses forces, certaines de ses faiblesses aussi. Et à ce moment-là, elle joue aussi à fond le championnat. Donc c'était forcément une dynamique très différente. Alors en Espagne, on n'est pas revenu plus que ça sur ce match de phase de ligue. Maintenant, il y a aussi une réalité, c'est qu'Arsenal a mis un 4-0 à cette équipe, donc forcément un moment pendant le match ça peut rentrer dans les têtes de l'Atlético. Et l'autre réalité, c'est qu'Arsenal est en grande réussite face au club espagnol. C'est la première équipe de l'histoire à remporter 7 matchs consécutifs face à des clubs espagnols en Ligue des Champions, donc c'est pas rien. Alors oui, est-ce que c'était dans des finales de Ligue des Champions? Pas forcément. Est-ce que c'était que contre des très très grandes équipes? Pas forcément, mais c'est pas rien. On se souvient qu'Arsenal, c'est une équipe qui a aussi éliminé le Real Madrid de l'année dernière en quart de finale. Donc c'est une équipe qui est très respectée en Espagne, et ça peut peser dans les moments importants des matchs où tu te dis qu'il n'y a pas n'importe qui en face non plus.
Bon, voilà, le décor est planté. Merci Edgar, on se retrouve tout à l'heure à 20h45.
Salut, Edgar.
Dans l'avant-match. Merci Julien.
À tout de suite.
Merci. Rendez-vous dans l'after tout à l'heure, le débrief. Salut, avec toi, avec Daniel, avec Gilbert, Manu Petit également. Dans un instant, tiens, on va évoquer, revenir sur la victoire du PSG, se projeter surtout sur la demi-finale retour dans 8 jours. Ce sera dans une semaine, pardon, ce sera mercredi prochain à Allianz Arena, FC Bayern, Paris Saint-Germain. Et surtout, qu'est-ce que va changer l'absence désormais officielle pour le match retour d'Achraf Hakimi? On en parle avec Kevin Diaz. Venez au 32-16 également nous donner vos solutions, même si elles paraissent évidentes. Reste avec nous, l'After Live sur RMC, 20h26. À tout de suite.
RMC, l'After Live.
Nicolas Jamain.
L'After Live, Ligue des Champions, la deuxième demi-finale. Allez, ça se passe en Espagne, à Madrid, au stade Metropolitano. Atlético de Madrid face à Arsenal, leader actuel de Première Ligue. Kevin Diaz est à mes côtés, coup d'envoi à 21h. Mais d'abord, on va parler du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich. Cette information importante qui nous est parvenue à RMC Sport. D'abord, en fin d'après-midi, début de soirée, Achraf Hakimi a passé des examens après sa blessure en fin de match hier. Le latéral parisien, c'est officiel, doit renoncer à la demi-finale retour mercredi prochain. Il sera absent 2 semaines et demie ou 3 semaines. Il s'agit d'une déchirure au niveau des ischios. En cas de qualification pour la finale, il devrait pouvoir tenir sa place. On verra. C'était tout à la fin du mois de mai. À date également, pour les supporters marocains qui nous écoutent, mais pas que, sa participation à la Coupe du Monde avec le Maroc n'est pas en danger. 32-16 ouvert. Venez en parler avec nous. À quel point c'est un coup dur pour le Paris Saint-Germain, justement. Quelle solution pour le remplacer? Quelle est la meilleure solution, notamment? D'ailleurs, je te pose la question, Kevin. Déjà, coup dur, énorme ou pas? Si énorme que ça.
Oui, si, quand même, coup dur pour le Paris Saint-Germain, mais quoi qu'il arrive, sur les trois qui semblaient être diminués hier, il y en avait bien un qui allait malheureusement être vraiment blessé. J'ai envie de te dire, est-ce que c'est pire que Kvara? Je crois pas, parce qu'il peut quand même être remplacé par Zaïre Emery. Le problème, c'est que si Zaïre Emery joue arrière droit, il faut le remplacer par Ruiz, qui est pas du tout en jambe.
Ouais.
Ça, c'est quand même un gros coup dur. Maintenant, c'est sûr que si ça avait été Nuno Mendes, c'était pas beaucoup mieux non plus, parce que Hernandez face à Olise, là, je pense qu'ils peuvent rendre les clés du camion tout de suite.
Bon, tiens, je vais accueillir Gauthier avec nous, 32-16 supporters parisiens. Salut Gauthier.
Bonjour tout le monde.
Bienvenue dans l'After Live, on est heureux de t'accueillir. Tout va bien?
Merci, ouais, impeccable. Sur mon petit nuage depuis hier.
Ah ben tu m'étonnes. T'es sur la route ou pas? Je vois que t'es routier.
Ouais, je suis sur la route.
T'es où?
Je suis à Nancy.
À Nancy, en Lorraine. Très loin du Parc des Princes, en tout cas. Ouais. Pas si loin de Munich, d'ailleurs. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment tu vis l'annonce officielle du forfait d'Achraf Hakimi? À quel point c'est un coup dur pour ton équipe?
C'est un putain de coup dur, parce que je suis exactement de l'avis de Kevin. Le problème, c'est que Zaïre Emery va faire le job. Ça, c'est très bien, ça. C'est pas un problème, ça. Mais le problème, c'est qu'il va être remplacé par Fabien Ruiz. Et Ruiz, il a pas de rythme. Il en aura pas plus la semaine prochaine. Et il est là, le problème. Il est clairement là, le problème.
Ouais,
on a bien vu hier, à l'entrée de Fabien Ruiz.
Ah ouais.
C'est là qu'on a pris les 3 buts, Fabien Ruiz, il a pas de rythme.
Deux buts.
Ouais.
Deux buts. T'es sûr que c'était que deux?
Ouais, tu mets 5-2 et ça fait 5-4 quand il est rentré.
5-4,
Ouais. Bon, il est pas responsable de tout, sur les deux buts, bien sûr, mais t'as raison.
Non, tout à fait, mais on a vu quand même une baisse clairement de niveau, on ne contrôlait plus rien, on a plus existé. Achraf Hakimi n'a pas fait un excellent match hier.
Bon, même donc, si à un moment, il fait un retour extraordinaire.
Oui,
en première mi-temps, il fait un retour extraordinaire. Ça reste, ça reste peut-être le meilleur latéral droit du monde en termes offensifs et puis défensifs, même s'il a, comme les autres, un peu souffert face à ce Bayern. Mais ça a été pareil pour les Bavarois qui ont souffert face aux Parisiens. Mais c'est vrai que ça reste un coup dur. Après, c'est... Bon, moi, vous savez que j'aime bien Luis Enrique, mais par contre, c'est un des bémols de cette politique de n'avoir que 11, 12, 13 joueurs titulaires, contrairement à Arsenal ce soir, qui a peut-être une moins bonne équipe de 11, mais qui par contre a 22 joueurs de très haut niveau et qui peut donc normalement en tout cas pallier aux absences des uns et des autres. Mais c'est vrai que quand t'as que 11-12 joueurs comme le Paris Saint-Germain, et faut pas oublier aussi, je ne sais pas ce qu'il adviendra de la demi-finale retour, mais faut pas oublier qu'on parlait d'Arsenal tout à l'heure. Arsenal, ils sont très diminués l'an dernier quand ils se font éliminer par le PSG, et c'est pour ça aussi qu'ils ont recruté l'été dernier. Là, le PSG, heureusement qu'ils ont que un absent, mais imaginons ils avaient les deux latéraux. Oh, là, c'est très, très compliqué. Et là, la cote du Bayern pour se qualifier, elle est à 1,50, hein, si t'as puté deux latéraux.
Il y a des propositions différentes, après, Gauthier. Vas-y, excuse-moi.
Il y a peut-être une autre solution, c'est de refaire descendre Doué au milieu de terrain et mettre Barcola à sa place.
C'est possible.
Enfin, une autre solution que Fabien Ruiz au milieu. Parce que moi, je le
Doué
sens pas,
dans le Fabien combat à Munich, au milieu de terrain, pour gratter des ballons, dans l'impact, tu penses que...
Parce que écoute, il peut faire une moussiala à Doué. Il joue avec des chaussons. Alors, dans l'impact, avec Fabien Ruiz, pour moi, ça va pas le faire du tout, hein. Ça va pas le faire du tout.
Il y a d'autres solutions qui sont proposées, là, sur la chaîne YouTube de l'After, dans le chat, par Mounir, notamment, qui nous dit pourquoi pas Mayulu au milieu. On nous dit, Saint-Nasser nous dit pourquoi pas Beraldo également, quoi.
Non, Beraldo.
Mayulu, je pense qu'attention, sur un retour, on aime bien, hein, il y a de l'espoir.
Il a failli marquer hier.
Il a failli marquer, mais c'est parce qu'on lui demandera à Munich dans une semaine. J'ai un peu peur pour lui dans l'impact physique, dans face au milieu de terrain, notamment dominé par Kimmich. Kanginli, pareil. Enfin, c'est un joueur intéressant sur 15 minutes, mais là, il n'est pas dans le ton de la Ligue des Champions, malheureusement pour lui, quoi. Il n'a pas enchaîné les matchs.
Fabien Ruiz non plus. C'est
au très très haut niveau. Bah oui, c'est pour ça que c'est un souci. Réellement.
C'est clairement un souci. Oui,
mais je pense que, a priori, hein, Kevin, on ne sait jamais avec Maître Luis Enrique, ça va être Warren Zaïre Emery, Fabien Ruiz. Je pense qu'il n'y a pas de suspense.
C'est une forme de logique. Zaïre Emery, il va falloir quand même bien défendre au Bayern. C'est un joueur qui défend bien. Et Ruiz, peut-être qu'il va jouer ce week-end et qu'il aura un peu plus de rythme la semaine prochaine.
Ouais, c'est possible. Parlons de ce match retour, une fois qu'on a ces données-là aussi en main. La question que je vous pose, c'est est-ce que ce but d'avance du Paris Saint-Germain met Paris en ballotage favorable, hein, je précise bien, les mots ont un sens, avant le retour à Munich. Un but d'écart, alors j'ai vu la stat, hein, 65% des équipes qui ont gagné avec un but d'écart au match aller à domicile se sont qualifiées au match retour.
Non, mais c'est quand même... je te laisse. Vas-y, je te laisse répondre.
Vas-y, Gauthier. Enfin,
moi, je pense qu'on n'a aucun avantage avec ce but-là. C'est bien, c'est très bien de l'avoir.
Pour toi, c'est comme un match nul, quasiment ?
Ah, mais carrément. Pour moi, il y a aucun avantage. Pour le moment, c'est comme s'il y avait 0-0 avec ce Bayern-là. Non, pour moi, c'est bien, c'est super. Mais ça va pas nous...
Si c'est super, c'est que c'est bien, c'est que c'est un avantage.
Oui, c'est bien, mais moi, pour moi, dans ma tête, c'est comme... Enfin, je suis d'accord avec Luis Enrique, pour moi, c'est 0-0, quoi.
Non, mais attention, il faut quand même pas galvauder une victoire. Certes,
ils n'avaient perdu que deux fois jusqu'à présent.
Certes, ce n'est que un but d'écart alors qu'ils en avaient trois d'écart. Ça, c'est vrai que ça, c'est rageant. Mais aujourd'hui, imagine, tu marques le premier but à Munich, ils doivent en mettre trois pour se qualifier. C'est pas un, c'est pas deux, c'est trois.
Oui, c'est vrai, donc
ils doivent mettre deux pour aller en prolongue.
Ouais, d'accord, mais t'as quand même gagné le match. Donc il y a un moment, t'as gagné le match. Si tu prenais l'égalisation à dernière seconde 5-5, là, c'est une catastrophe. Parce que là-bas...
Tant ça, finalement ?
Ah si, c'est une catastrophe.
Vu le déséquilibre permanent de ce genre de confrontation-là,
où
part dans tous les sens, le PSG qui a une figurance, une efficacité folle.
Non, mais là, attends, si tu fais 5-5 hier, ça veut dire qu'il faut aller gagner à la Lente Arena. Voilà, c'est dur. Franchement, c'est très très dur avec sans Hakimi. Non, moi je pense que là, ils ont quand même gagné. Ça veut dire qu'un match nul, t'es qualifié. Tu sais que tu vas prendre des buts. Peut-être pas des, mais tu vas prendre un but, ça c'est sûr. Donc il faudra marquer, ça c'est clair aussi. Mais au moins, voilà, t'as quand même l'avantage d'avoir gagné. Donc c'est quand même un avantage non négligeable.
Ouais. Enfin, c'est pas non plus. C'est sûr, Kevin, mais.
J'ai pas dit que t'étais favori à 200%. Je te dis que c'est un avantage, clair.
Oui, bien sûr. C'est sûr, c'est certain. Mais t'as pu être vite balayé au bout d'un quart d'heure.
Même au bout de 5 minutes, ça peut être balayé. Mais bon, après, voilà.
Bon. Ouais, on verra.
Mais question très simple, les gars, aussi, par rapport à ce qu'on a vu hier soir. Est-ce que vous considérez, c'est intéressant pour le match retour, que le Bayern est une meilleure équipe, un meilleur collectif que le Paris Saint-Germain?
Moi, pour moi, c'est clair. Je dis bravo au Paris Saint-Germain. Ils ont gagné. Ils ont un avantage non négligeable. Mais pour moi, hier, j'ai trouvé que le Bayern a été meilleur que le Paris Saint-Germain. Et pourtant, ils ont pris un but de plus. Il ne faut pas oublier, comme l'a dit Compagnie, qu'ils ont pris un but de plus sur un coup du sort, un pénalty, pas pénalty. Moi, je pense qu'il n'y a pas pénalty. Mais bon, bref, c'est l'arbitre qui a décidé. Tant mieux pour le PSG. Mais sinon, si à 5-5 ou si à 4-4, c'est pareil. Donc, c'était un match à 50-50. Ça a été un match qui a été à 50-50. Mais aujourd'hui, le Bayern, ils ont des expected goals plus haut, ils ont plus de possession.
Et une maîtrise collective aussi.
Ils ont une maîtrise collective qui est meilleure. Et pour moi, sur le mat, c'est pas très grave, mais ils les avaient déjà battus à l'aller.
Mais Kevin.
Non, mais disons qu'ils les avaient battus en phase de groupe. Là, ils ont perdu 5-4.
Bon, il y a eu un rapprochement, ça y est, le PSG n'est plus le PSG du mois de novembre, effectivement.
Bien sûr.
Mais en revanche, les carences dans la verticalité du FC Bayern, avec la vitesse des trois devant, là, Gvara, Dembélé, Doué et tout.
C'est les mêmes
dans le dos,
PSG.
Ils sont en grande difficulté aussi.
Mais le PSG, c'était pas en difficulté dans le dos? Parce que s'il y a 2-0 à la 10e, c'est pareil.
Pas autant, je pense, mais bon, écoute.
Bah si, aujourd'hui, c'est un match qui a été très équilibré. Le PSG a gagné, bravo. Ils ont été meilleurs au niveau du résultat. Mais dans le jeu, ils ont été en grande difficulté comme jamais. Et ils ont quand même pris 4 buts à domicile. Ok, ils en ont mis 5, mais ils en ont pris 4 à domicile aussi. Et ça, c'est parfait.
Je suis entièrement d'accord avec Kevin, en fait. C'est pour ça que je ne vois pas le but d'avance là à un réel avantage, parce que je suis exactement d'accord avec Kevin. Pour moi, le Bayern est ressorti quand même un peu plus fort que Paris hier. Ils ont plus de maîtrise, ils sont plus forts, je pense. Et Paris a fait
ça
un match.
Ça ne veut pas dire qu'ils vont se qualifier. Hein.
Ah oui, c'est pas ce qu'on dit.
Ah non, mais tout à fait. Mais hier, Paris a fait une prestation irréelle, presque. J'espère qu'ils pourront rééditer la même performance, mais j'ai des doutes. Tandis que je n'ai aucun doute sur la performance probable du Bayern. Je pense que le Bayern peut rééditer cette performance. Mais le Paris, putain, c'était irréel. Les trois buts en 10 minutes en seconde période, c'est fou, quoi. Et j'espère qu'ils pourront le rééditer. Mais j'ai quand même un doute. Je vois le Bayern vraiment plus fort tout de même.
Bon. Merci Gauthier d'être venu au 32-16. Passe une très bonne soirée. Récupère bien tes émotions également. Redescends tranquillement. Sois prudent sur la route avant cette demi-finale retour mercredi prochain entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. On l'attend avec impatience, bien sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait 9 buts la semaine prochaine. Mais en tout cas, le Bayern va devoir se découvrir un minimum, encore une fois. Enfin, comme il l'a fait hier soir. C'est pas un problème pour Vincent Kompany. D'ailleurs, t'as aimé la séquence hier? Tu l'as vu, Lucien Riquet qui croise Vincent Kompany dans le couloir, qui lui dit alors, t'as aimé ou pas? C'est génial.
Non, il lui dit ouais, mais j'étais là-haut, j'ai pas trop aimé.
Merci Gauthier encore une fois. Dans un instant, on se replonge ce duel entre l'Atlético de Madrid et Arsenal. Manu Petit, lui, est en approche. Son cœur, on sait pour qui il balance. Il est rouge et blanc ce soir. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Parce que
il est pour le rouge et blanc de l'Atlético.
Il est pour les Colchoneros, on le sait bien.
Ouais.
Hein, voilà.
Comment on en sort?
Manu a toujours un problème avec ses ex, on le sait bien. Et Arsenal en est une. Kevin, tu restes avec moi. On va retourner au Metropolitano, retrouver Edgar Grelot. On me dit que l'ambiance monte terriblement. Simeone qui va chauffer ses joueurs. On est à moins de 20 minutes désormais du coup d'envoi de cette deuxième demi-finale. Allez, de Ligue des Champions à vivre sur RMC dans l'After Live. 20h41, à tout de suite.
RMC, l'After Live.
Nicolas Jamain.
Ligue des Champions, deuxième demi-finale. Allez, face à Arsenal, l'Atlético de Madrid qui reçoit chez elle au Metropolitano qu'on envoie dans 16 minutes, 17 minutes désormais à suivre sur RMC. Manu Petit nous rejoint dans un instant. Tiens, on retourne à Madrid justement au Metropolitano. Edgar Grelot est sur place. Raconte-nous un peu maintenant à quoi, quasiment 15 minutes du match. Est-ce que le stade est plein déjà, Edgar?
Ouais, ça se remplit. Après, vous connaissez les Espagnols, ils aiment bien flâner un petit peu autour du stade et remplir le stade dans les dernières minutes. En tout cas, le fond d'eau source est quasiment rempli. Pour le reste, c'est en train de se remplir tout doucement. Le parkage aussi est quasiment plein déjà des supporters des Gunners. Et pour vous dire, ça sent un petit peu les fumigènes à l'intérieur de ce stade, parce que il y a eu évidemment l'arrivée du bus et il y a beaucoup de vent sur Madrid ce soir. Donc c'est un petit peu venu nous enivrer ici à l'intérieur de ce stade. Et je vois d'ailleurs le fameux drapeau, pour l'anecdote, le fameux drapeau français, vous savez, avec écrit Sarreguemines. dessus qu'on voit depuis 10-15 ans dans tous les stades, et il est là ce soir.
Il est là ce soir, c'est une information importante. Merci Edgar de nous l'avoir signalé, bien sûr.
Rappelle-moi. Exclu RMC.
Grosse info, Edgar.
Ce sera en une.
Ah oui,
ce bombasso,
ce sera en une du site.
Avant une demi-finale de Ligue des Champions.
Bombasso.
La compo de l'Atlético, Edgar, s'il te plaît.
Ouais, avec Yann Oblak dans les cages, la défense de la gauche vers la droite. Ruggeri, Anko, Poubil, Llorente au milieu de terrain, Coquet et Cardoso à gauche, Lookman à droite, Giuliano Simeone et les deux devant, Antoine Griezmann, Julian Alvarez.
Et franchement, Kevin, quand il y graine les noms là, le 11 des Colchoneros, c'est pas mal, mais ce serait quand même une immense surprise de retrouver cette équipe là en finale avec des champions, Kevin. Franchement.
Oui, mais bon, n'oublie pas.
C'est un effectif équilibré, certes, mais t'as pas de crack européen là-dedans.
Ok,
là,
mais on n'oublie pas qu'il y a deux ans, c'est qui était en finale face à Real.
C'est vrai.
C'était Dortmund, donc il y a un moment, des fois il y a des équipes qui arrivent à faire des parcours comme ça extraordinaires. Bon, eux, quand même, on les a déjà vus en finale de Ligue des Champions sur les 15 dernières années, mais aujourd'hui ils ont su profiter de leur effectif, des circonstances, des cartons rouges et d'un parcours quand même qui a été très honorable. Donc aujourd'hui, avec un Antoine Griezmann, avec un Alvarez, avec un Lookman, il y a quand même pas beaucoup d'équipes européennes qui ont cette qualité en attaque.
Et d'ailleurs, Kevin, si on prend ce trio-là, Lookman, Griezmann, Alvarez, contre Martinelli, Gyökeres, Madueke.
Ouais, je
sur le papier.
Ouais, bon, moi, j'aime beaucoup Martinelli, même si c'est pas le joueur le plus adroit. Mais je pense que le trio de l'Atlético est meilleur.
Bon. La défense centrale, il faut en parler également, Edgar. Ce duo Poubil Anko Jiménez est absent ce soir pour cause de blessure. Est-ce qu'on l'observe avec un peu de fébrilité, cette défense?
Alors, j'ai envie de vous dire que c'était l'une des grandes interrogations. Comment Diego Simeone allait gérer le retour d'Anko, parce qu'on rappelle qu'il s'est blessé au match aller face au FC Barcelone, blessé à la cheville. On ne savait pas encore s'il allait être prêt à commencer ce genre de match de haut niveau à haute intensité. Il a fait le choix de le mettre et donc de l'associer à Poubil et Anko. Poubil et Anko, sur le papier, c'est la défense centrale titulaire de l'Atlético sur cette deuxième partie de saison. Et l'autre choix intéressant, important de Diego Simeone, c'est d'avoir replacé Marcos Llorente latéral droit, puisqu'on rappelle que Pablo Barrios était de retour en Liga. Là, il était titulaire ce week-end face à l'Athletic Club de Bilbao et qu'il a rechuté et qu'il est blessé aux ischios, donc il est absent. Généralement, on avait, comme ça a été le cas par exemple face au FC Barcelone, un Marcos Llorente qui revenait au milieu de terrain, et donc il y avait un énorme point faible dans la composition de l'Atlético de Madrid. C'était Noël Molina qui, défensivement, disons le terme, il est catastrophique. Llorente, lui, est l'un des meilleurs latéraux droits du monde. Il l'a montré cette saison. Et donc, il a mis Cardoso au milieu de terrain. C'est un choix fort. Est-ce que Cardoso assumera aussi à ce niveau-là? Il n'a pas la plus grande expérience du monde, le milieu de terrain américain. En tout cas, sur le papier, Ruggeri, Anko, Poubil, Llorente, c'est la défense titulaire de l'Atlético de Madrid.
La défense ce soir titulaire. La compo d'Arsenal, tu peux la rappeler, mon cher Edgar?
Ouais, avec Raya dans les cages, la défense Incapié, Gabriel, Saliba, White au milieu, Declan Rice, Martin Zubimendi et Martin Odegaard, et devant Martinelli, Gyökeres et Madueke.
On n'a pas encore retrouvé Odegaard, hein, qui a été merveilleux son dernier, Kevin, un joueur qu'on adore aussi, souvent blessé à l'image de Bukayo Saka. C'était aussi pour ça que Arsenal a du mal à accélérer dans cette fin de saison. Comment tu vois ce rapport de force ce soir? On a du mal à l'imaginer, savoir si c'est Deco qui va mettre une folle intensité, quitte à avoir la possession, ou si Arsenal va regarder comme il avait fait d'ailleurs face au Sporting.
Non, moi je pense quand même que Arsenal va essayer de prendre les choses en main, même si, attention, l'Atlético, ils sont aussi capables d'attaquer, ils sont aussi capables de dominer. Après, une fois qu'ils marquent, ils vont reculer, ça c'est sûr. Mais moi je pense qu'Arsenal va essayer de prendre le jeu à son compte et va essayer quand même d'imposer son football et d'imposer ses cheminements. Après, on sait qu'ils vont jouer les touches longues, qu'ils vont jouer les coups de pied arrêtés à fond. Et l'idée pour Arsenal, bien sûr, ce sera de marquer dans ce match. Je m'attends à un match quand même très équilibré, parce que même si je trouve qu'Arsenal est meilleur, il y a quand même une atmosphère et une énergie dans ce stade et dans cette équipe qui est quand même à noter. Mais je m'attends à un match pareil. Je dirais pas 50-50, je dirais 52-48 pour Arsenal, mais pas une différence énorme.
Edgar, est-ce qu'on dit aussi, on a cité Julian Alvarez, Kevin en a parlé également, on a fait beaucoup de débats, de podcasts After Espagne également sur son cas, en disant que pour l'instant on reste sur notre fin. Julian Alvarez, Atlético de Madrid, le mariage n'est pas parfait. Il y a des fulgurances, il y a des buts superbes, il y a des coups francs merveilleux, mais ça doit être son soir également.
Oui, ça doit être son soir. Et généralement, en Ligue des Champions, ce soir, ça a été ses soirées. Parce que c'est vrai qu'il a manqué de régularité en Liga. Il a eu un énorme trou au milieu de la saison. Même en finale de coupe, jusqu'à l'heure de jeu, on ne le voyait pas avant qu'il se réveille sur la fin de match. Mais en Ligue des Champions, il a vraiment répondu présent cette saison. 9 buts, 4 passes décisives pour lui. Et surtout, quand tu regardes les derniers tours de l'Atlético, à chaque fois, Julian Alvarez a été décisif pour qualifier les siens. Est-ce qu'il va continuer ce soir? On l'attend aussi dans ce genre de rendez-vous. On entend toujours parler lui dans d'autres clubs, et d'ailleurs c'était très intéressant, ça a été relevé par la presse espagnole. Une question a été posée à Diego Simeone hier en conférence de presse, qui était de se dire oui, on lit dans la presse qu'Arsenal est intéressé par Julian Alvarez, qu'est-ce que vous en pensez? Et Diego Simeone, sans qu'on lui ait parlé d'autres clubs, il dit oui, ça ne m'étonne pas qu'Arsenal, le Barça et le Paris Saint-Germain soient intéressés. Ah ouais. Par Julian Alvarez, parce que c'est un très bon joueur. C'était quand même assez particulier comme réponse, parce que personne lui avait demandé de se mouiller comme ça. Mais voilà, pour prouver que tu as le niveau pour intéresser ce genre de club, il faut aussi répondre présent dans ce genre de rendez-vous comme ce soir face à Arsenal.
Kevin, tu situes où là sur, dans la hiérarchie des attaquants européens, des cracks européens, Julian Alvarez aujourd'hui? Sincèrement, c'est un deuxième chapeau?
Oui, c'est un deuxième chapeau, j'allais dire top 10, pas forcément top 6. Maintenant, ça reste un joueur qui a beaucoup de qualité, mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui, il soit un joueur vraiment complet pour être dans le top 6 comme un Harry Kane. Maintenant, il est jeune, il a encore le temps. Il a quel âge là?
26 ans quand même.
Ouais, 26. Donc, écoute,
c'est ça.
J'ai envie de te dire, ça reste un joueur qui peut prendre la profondeur, qui a une très très bonne frappe de balle. Ça reste quand même un très très bel attaquant. Après, il est dans une équipe aussi où c'est pas vraiment porté vers l'avant.
C'est ce que disent ses fans argentins.
Demain, tu le mets à la place de Lautaro Martinez, il t'en met 25 aussi.
C'est ce que disent beaucoup de ses fans. Dit en clair, pars-toi de ce club. Simeone n'est pas fait pour toi. Va-t'en vite et va te régaler ailleurs. Malheureusement, il n'a pas réussi dans l'ombre d'Erling Haaland à s'imposer réellement à City. Il est venu en tant que leader à l'Atlético de Madrid. Il n'a pas réussi pour l'instant à s'imposer comme le leader absolu et à faire passer un vrai cap au Colchoneros. Kevin, merci.
Merci.
Bon match à toi. Dans un instant, Manu Petit sera avec nous. Edgar Grelot est en place. La sono déchire le ciel de Madrid.
Ah oui. Au Metropolitano.
ACDC, assez laissé pour les Français. Ah, ils annoncent la compo justement. Manu Petit est là dans un instant. Manu Petit qui a dansé, qui est sûrement allé voir des concerts d'ACDC dans sa vie. C'est sûrement sa musique, ça. C'est sa sensibilité musicale. Hein, Manu Petit, il arrive dans un instant après la pause. Nous aussi, le match débute dans moins de 9 minutes désormais. Atlético de Madrid, Arsenal, gros match, grosse affiche européenne, Ligue des Champions demi-finale. Allez, restez avec nous, on va se régaler sur RMC.
RMC, l'Afterlife.